Bonsoir. Qui connaît vraiment les conséquences qu'auront les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la blockchain, l'usage des données? Oui, ça va vite, ça va très très vite. Et toutes ces nouvelles technologies, vecteurs de progrès, elles sont en passe de révolutionner l'économie, la société et l'humain. Et derrière ce formidable chantier qui peut en inquiéter certains, on voit les grands acteurs qui se mobilisent. Alors justement, les géants de la tech qui investissent, qui engendrent des milliards de données à force de tout vouloir changer, de tout contrôler, est-ce qu'ils ne se prennent pas pour Dieu? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, on va parler éthique, on va parler valeur. Et si on vous en parle, c'est parce que ce soir, entre autres, et c'est la question que je pose, le monde de la tech se prend-il pour Dieu? Il y a Eric Salobir, le frère Eric Salobir, à la tête de l'Optique Techno. C'est l'ordre des prêcheurs pour les technologies, l'information, la communication, un réseau mondial de PDG, de chercheurs, pour sensibiliser les grands de ce monde, justement, eh bien, aux enjeux éthiques de la tech. Et qui initie le pape à l'intelligence artificielle. Vous nous raconterez justement comment, eh bien, François, le souverain pontife, justement, eh bien, connaît ou pas toutes ces nouvelles techno. Alors, il y en a, il connaît ça par cœur. C'est Olivier Derrien, le directeur général France-Europe du Sud de Salesforce, l'un des grands acteurs du cloud, des logiciels, de l'intelligence artificielle. Bonsoir. Nicolas Bouzou avec nous, à la tête de son cabinet d'études Asterès. Il est économiste, auteur de Le travail et l'avenir de l'homme. Et puis Mathieu Courtecuisse, observateur, président fondateur de Sia Partners, à la tête de ce cabinet de conseil qui explore depuis quelques années toutes les facettes de l'intelligence artificielle. Alors, Eric Salobir, je vous appelle comment, frère
Eric?
Eric, c'est très bien. Oui, je peux vous appeler Eric quand même. On vous appelle Father Rick dans la Silicon Valley, où vous avez vos entrées, justement. Vous êtes en dehors un peu du circuit officiel de l'Église. Le Point, d'ailleurs, vous avez consacré un grand portrait il y a quelques semaines. Vous avez été un moment au Crédit Lyonnais, chargé des grands comptes, spécialisé dans les fusions-acquisitions. Que faites-vous exactement aujourd'hui? C'est quoi votre job?
Moi, mon job, c'est d'essayer de mettre en contact des gens qui viennent du monde de la tech, qui viennent du monde des sciences humaines, qui viennent du monde de la société, des régulateurs, tous ces gens-là, les mettre autour d'une table, les faire travailler ensemble et les aider à se poser des questions différentes sur les sujets que vous évoquez maintenant.
Oui, alors justement, conseiller du pape vraiment, conseiller en tech de sa sainteté, qu'est-ce que vous lui apportez? Vous le conseillez à l'intelligence artificielle?
On est nombreux à conseiller le pape, on est nombreux à...
Vous êtes sur ce domaine-là particulièrement?
Ah, on est quelques-uns, on va dire, et effectivement, ce qu'on essaie de lui apporter, c'est une compréhension des technologies pour lui permettre, lui, d'avoir un avis éclairé sur les sujets qui sont derrière. Parce que lui, les questions qu'il pose, c'est pas des questions tech, ce qu'il pose, c'est des questions d'impact humain, c'est des questions sociales, c'est quel impact sur les migrants, quel impact sur les plus vulnérables, quel impact sur l'emploi, et c'est avec lui, c'est sur ça qu'on travaille.
Et ça l'intéresse?
Énormément.
L'intelligence artificielle, il connaît bien?
Ah, il se débrouille pas mal. Il se débrouille pas mal.
Ça va vite quand même, hein, toutes ces techniques, je le disais, justement, même pour un homme comme sa sainteté, justement, qui
n'a
pas forcément évolué dans ce secteur.
Ah, peut-être plus qu'on ne pense. Et surtout, c'est quelqu'un qui peut se permettre, parce que c'est le pape, de recevoir un certain nombre de personnalités quand même assez pointues qui vont lui expliquer, vraiment en ayant une très bonne connaissance, très panoramique du sujet, ce que peut-être tout le monde ne sait pas au quotidien, ou tout le monde ne lit pas dans les magazines. Et justement, je pensais à un homme extrêmement bien informé.
Juste avant qu'on voit un petit peu toutes les inquiétudes sur ces questions d'éthique, comment on se retrouve du Crédit Lyonnais où on gère les fusions-acquisitions à devenir un frère dominicain et à conseiller donc eh bien le souverain pontife?
Spirituellement, je dirais, c'est la providence, et humainement, je dirais qu'on se laisse porter. On se laisse porter par les questions des contemporains, on se laisse porter par les interrogations des gens qui disent « Ah, il faut que tu fasses ça, ah, ça c'est intéressant ». Et là, en l'occurrence, on se laisse porter par un certain nombre de gens de la Silicon Valley qui viennent nous voir et qui disent « Voilà, on a des questions, est-ce qu'on peut bosser ensemble ?»
Vous les connaissez tous?
Tous, non, j'en connais un certain nombre, effectivement, et de fait, je sais qu'un certain nombre se posent de vraies questions éthiques, de vraies questions d'impact.
Lesquelles? Qui?
Je sens mauvais de citer des noms comme ça, mais on peut dire qu'un avec lequel on travaille beaucoup, c'est Reid Hoffman, qui est membre du board de notre fondation, donc le fondateur de LinkedIn, et qui est quelqu'un qui a pour idée de mettre de la sagesse dans les technologies intelligentes. Et ça, je trouve que c'est assez pertinent, en fait. Donc c'est pas une approche religieuse, c'est quand même une approche très humaine et super ancrée.
Bon, vous nous raconterez les coulisses. Je sais que vous avez déjeuné il y a peu de temps avec le grand patron d'Olivier Derrien, donc le grand patron de Salesforce. Nicolas Bouzou, lors de la présentation de son plan pour l'intelligence artificielle il y a une dizaine de jours, hein, le président de la République qui va débloquer 1,5 milliard d'euros de crédit public sur le quinquennat en faveur de l'intelligence artificielle. Alors certains vont dire que c'est pas assez. Bon, notamment vous-même, j'imagine. Hein. Il insistait sur la nécessité d'un débat public à l'échelle nationale, mais aussi mondiale, sur les enjeux éthiques et démocratiques de l'intelligence artificielle. Que disait-il ? Il est essentiel que soit garantie la transparence et la légalité des algorithmes. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'inquiéter ? Pourquoi est-ce qu'il s'inquiète, le président de la République ?
Oh, parce que, comme dans toutes les grandes révolutions technologiques, on a connu ça au 19e siècle, on a même connu ça à la Renaissance, où l'Église d'ailleurs a été extrêmement bousculée, notamment par l'imprimerie, mais à chaque fois qu'on a des grandes mutations technologiques, vous savez, les économistes parlent de destruction créatrice, bah, cette destruction créatrice, elle n'est pas simplement technologique, elle n'est pas simplement économique, elle n'est pas simplement sociale, elle est aussi, en réalité, philosophique et éthique. Je vais vous donner un exemple très concret pour bien faire comprendre. Je travaille beaucoup sur l'innovation dans le domaine de la santé. Eh bien, vous avez un immense débat qui commence à revenir, mais qui va revenir dans le domaine de la santé. Et j'ose prononcer le mot, qui est un mot qui fait scandale en Europe, un peu moins ailleurs. Ce sera un débat sur l'eugénisme, tout simplement, parce que nous allons avoir des moyens extrêmement perfectionnés pour identifier des maladies, avant la naissance d'un bébé. Et quand vous voyez que aujourd'hui 97% des femmes dont le fœtus est amené à être trisomique se font avorter, vous voyez bien que lorsque l'on pourra identifier des maladies mortelles, ce qui n'est pas le cas de la trisomie 21, évidemment, nous aurons des avortements. Et ça, ce sont en effet des sujets éthiques que l'on peut poser aujourd'hui, avec néanmoins, de mon point de vue, une petite nuance, parce qu'on a beaucoup parlé d'éthique la semaine dernière. L'éthique, c'est très important. Simplement, quand on a la chance de voyager un peu, on voit que l'Europe est le continent qui parle le plus d'éthique, mais c'est aussi celui qui est le moins présent dans ces secteurs. Et j'ai en mémoire une conversation que j'ai eue avec des responsables chinois il y a quelques semaines, qui me disaient la chose suivante, qui m'a beaucoup marqué. Ils me disaient, vous savez, les questions éthiques que vous vous posez en Europe ou en France, mais ne nous prenez pas pour des idiots, on se pose très exactement les mêmes. Et bien souvent d'ailleurs, nous serons amenés à apporter les mêmes réponses. La seule différence, c'est que nous allons devenir les leaders de l'intelligence artificielle à l'horizon 2030, et une fois que nous serons les leaders, nous pourrons mettre en place des standards éthiques, d'ailleurs qu'éventuellement nous pourrons exporter dans le monde entier. Je pense que c'est quand même une réflexion qui n'est pas totalement scandaleuse.
Oui, Olivier Derrien, donc à la tête de Salesforce en Europe, c'est vrai que c'est une technologie dominée par les États-Unis, par la Chine. Est-ce qu'il se pose vraiment beaucoup de questions sur l'éthique, comme le dit Nicolas Bouzou ? Est-ce qu'on s'en pose suffisamment en général ?
Si on s'en pose pas assez, on aurait intérêt à continuer à s'en poser. Moi, le mot qui me vient plus à l'esprit quand je discute avec tous nos clients et tous nos partenaires, en France en particulier, mais en Europe, c'est l'équilibre entre, en fait, la puissance technologique et les valeurs de la société. Les valeurs, et nos clients nous demandent d'expliquer notre vision et nos valeurs en tant que société. Peut-être encore plus important, ils nous demandent ensuite d'agir en fonction de nos valeurs. Et le mot-clé dans tout ça, c'est la confiance. Certains nous accordent leur confiance en quelques semaines, d'autres en 10 ans. Parce que vous et moi, on n'a pas le même rythme pour accorder la confiance aux uns et aux autres. Donc c'est un chemin. Et on doit mériter, gagner la confiance de chaque client. On se concentre sur le succès de nos clients, mais on doit mériter la confiance. Donc valeur, confiance, c'est les mots qui me viennent à l'esprit en écoutant l'éthique.
Mathieu Courtecuisse, Sia Partners.
Oui, bah c'est toujours un débat entre l'éthique, l'innovation et la position concurrentielle. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe possède 3% de part de marché sur les valorisations boursières de la tech, là où on devrait avoir 25-30% qui correspondrait à notre part de marché naturelle. Et si on était une économie d'innovation, on devrait même avoir un peu plus que ça. Donc aujourd'hui, on est extrêmement en retard. Donc la question, c'est est-ce que nous, en tant qu'économie en retard, on peut se permettre le luxe de cette question de l'éthique à un moment donné, où de toute façon on a un déficit d'infrastructure qui nous permet tout simplement de mettre en œuvre plein de composants de l'intelligence artificielle aujourd'hui.
Que doit-on mettre sous le mot éthique, sous le mot valeur, quand on parle d'intelligence artificielle, frère Salobir.
Alors moi, déjà pour revenir sur ce qui vient d'être dit, je suis pas sûr qu'il faille forcément opposer d'un côté productivité, progrès, développement, et d'un autre côté éthique. Non. Comme l'éthique, c'est le frein moteur, c'est le truc qui nous bloque. Moi, je suis absolument pas d'accord. Je pense que justement, l'éthique, c'est comme vous disiez, c'est effectivement une façon de mettre nos valeurs dans nos projets. Et on sait très bien que ces technologies sont pas neutres. On sait très bien que ces technologies, elles formatent une forme de société, un type de société, et quelque part, quand nous on crée des technologies et qu'on les utilise, ces technologies-là retransforment la société dans laquelle on vit. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre, dans quelle société on a envie de vivre. Et là, je pense que dans ce cadre-là, l'éthique peut aussi être une façon d'apporter des choses différentes, peut-être des solutions. Et en l'occurrence pour l'Europe, si on a un marché avec des sensibilités différentes, par exemple des États-Unis ou de la Chine, peut-être que des fournisseurs européens vont proposer des solutions qui sont plus proches du marché. Alors, je sais pas si elles seront plus éthiques, mais elles vont mieux convenir à nos valeurs, et du coup, peut-être qu'elles auront beaucoup plus d'impact.
Où résident, à votre avis, les principaux soucis? Nicolas Bouzou mettait en avant les questions de santé, justement, avec peut-être un risque d'eugénisme. À vos yeux, donc, Eric Salobir, donc, président d'Optique Techno, où est-ce qu'il faut craindre le plus?
Je pense qu'effectivement, la santé, ce sera l'un des très gros enjeux. L'autre gros enjeu pour moi, c'est toutes les activités régaliennes de l'État. On voit petit à petit l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la sécurité, dans la défense, dans la justice, dans la police.
Par exemple.
Voilà. Alors ça, c'est la partie vraiment émergée de l'iceberg dont on parle beaucoup. Mais après, il y a beaucoup d'autres choses. Et la question, là aussi, c'est comment ces choses-là, qui sont vraiment au cœur de notre système démocratique et au cœur de notre société, et qui ont un impact extrêmement fort, parce que l'État est le seul dépositaire de la violence légale. C'est-à-dire, c'est le seul qui puisse faire quelque chose à ce niveau-là. Comment tout ça va transformer notre société?
Alors, Olivier Derrien, Salesforce, Nicolas Bouzou, Asterès.
Alors, déjà, l'intelligence artificielle, pour moi, on en parle de plus en plus depuis un an, tout simplement parce qu'on assiste à deux choses en même temps. Premièrement, énormément de données, de plus en plus de données. C'est le fuel, c'est l'essence des moteurs d'intelligence artificielle, et la puissance informatique est abordable au niveau économique. On a de plus en plus de puissance de feu, si vous voulez, à des coûts abordables. Et tout d'un coup, le résultat de tout ça, c'est que l'intelligence artificielle, on en parle. En ce qui nous concerne, nos clients nous demandent de leur proposer, que nos logiciels, en fait, leur proposent des bonnes actions pour qu'ils connaissent mieux leurs clients. Nous, on est chez Salesforce, on est dans le monde du logiciel. On permet à nos clients de mieux comprendre et de mieux connaître leurs propres clients, leur propre écosystème, pour mieux les servir. Alors, le système doit être capable de dire, tiens, là, je pense que tu ferais bien d'appeler tel client, ou là, je pense que, à cause de l'analyse de mes données, ça serait mieux de commencer par ça aujourd'hui que par ça. Alors, on en est là pour le moment, mais dans tous nos produits, on va trouver ce qu'on appelle, nous, Einstein, on l'appelle Einstein chez nous, les petits algorithmes d'intelligence artificielle qui vont proposer des choses à chaque utilisateur.
Nicolas
Oui, je voudrais préciser ma pensée. Je n'ai pas du tout dit que les débats éthiques n'étaient pas fondés et que il y avait un arbitrage à faire entre l'éthique et l'économie. Ce que je dis simplement, c'est que on fait d'autant mieux de l'éthique qu'on est puissant économiquement. C'est véritablement ça mon idée. Et en Europe, j'ai parfois l'impression, mais peut-être aussi, il m'arrive de me tromper malheureusement, mais peut-être de temps en temps j'ai raison aussi, il me semble en Europe que les débats sur l'éthique, qui sont très nombreux, se substituent parfois à nos capacités et à un certain courage pour faire de l'économie et faire de l'innovation. Et je pense que l'Europe, qui est un continent extrêmement particulier, c'est un continent très particulier parce que c'est le continent dans lequel le XXe siècle a montré que l'innovation pouvait faire du mal. Et ça, c'est très important.
La première guerre. Vous voulez dire quoi? On se met trop de freins?
Mais je pense qu'il faut comprendre ça. Je veux dire, le gaz moutarde, la première guerre mondiale, l'aviation qui sert à faire les bombardements. J'étais très frappé il y a quelques années quand on a commémoré la libération des camps de concentration. On parlait beaucoup d'usine de la mort. Donc vous voyez, c'est très fort l'idée d'usine de la mort, parce que derrière le terme d'usine de la mort, vous avez l'idée du capitalisme et l'idée de l'innovation. Tchernobyl après la Deuxième Guerre mondiale, et donc le XXe siècle européen.
C'est peut-être un parallèle tout simple.
Oui, mais je le comprends parfaitement. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que nous Européens, nous avons été traumatisés par l'innovation, parce que l'innovation a servi en Europe à commettre les plus atroces crimes contre l'humanité. Et il faut, je pense que on arrive à se dire l'innovation. Mais ça peut aussi servir à faire du bien, et ça peut être mis au service du progrès. Et ça, je trouve que c'est un fantastique. Si vous voulez, alors là, pour le coup, en Asie, on se pose pas ce genre de questions. En Chine, l'innovation, pour l'instant, c'est bien. parce que on considère que ça permet aux gens de sortir de la pauvreté, ça permet au pays de recouvrer une puissance qu'il avait perdue au XXe siècle, et donc on a une vision d'innovation qui est spontanément positive. En France, eu égard à ce traumatisme qu'il faut comprendre, ce traumatisme historique qu'il faut comprendre, on est le pays des deux guerres mondiales, le continent des deux guerres mondiales, le continent des camps de concentration, donc on n'a pas le passé de l'Amérique, ouais, bon, de l'Amérique du Nord. Mais il faut quand même qu'on arrive, si vous voulez, à comprendre que l'innovation peut être mise au service du progrès, d'un progrès vraiment positif. D'ailleurs, j'étais ravi dans votre introduction, Fabrice, vous avez évoqué le terme de progrès qui n'est plus jamais évoqué. En France, on entend très rarement le terme de progrès.
Question que je pose à tous, tiens, Mathieu Courtois, il faut se méfier, ou alors encourager systématiquement les innovations?
Évidemment. Alors après, il peut y avoir plusieurs séquences dans la façon dont on pilote l'émergence des innovations. Mais pour abonder dans ce qui vient d'être dit, donc là, l'éthique, elle se transforme en système réglementaire, elle se transforme en système législatif. Donc là, aujourd'hui, en Europe, on bâtit un système réglementaire. Donc il y a la protection des données avec un nouveau cadre qui sort fin mai. Au rapport, la RGPD, il y a l'audit des algorithmes qui arrive derrière, qui a été aussi rappelé dans le rapport Villani. Mais nous, en tant que praticiens de l'intelligence artificielle, on voit déjà avec la RGPD, il y a plein de choses qu'on pourra pas faire et qui pourraient être très utiles aux populations. Et je dirais même, on n'a pas d'alternative, comme vous le disiez, en Europe aujourd'hui, parce que on parlait de valeurs tout à l'heure, mais dans les valeurs, on voit le rapport Villani décrit un système très descendant. Finalement, c'est l'État qui définit, et je note au passage que d'ailleurs l'État français en particulier, la RGPD, ils s'en fichent un petit peu, parce que ces administrations, ils ne sont pas vraiment, alors ils sont censés être dans le scope, mais ils le font pas vraiment. Mais au-delà de ça, les entreprises privées se mobilisent parce qu'il y a un système de pénalités. Mais vous allez,
est-ce qu'elles sont toutes prêtes? Je suis pas sûr.
Vous allez pas mettre les mêmes pénalités.
Il y aura des périodes d'adaptation.
Ouais. Certes, mais disons qu'aujourd'hui, je peux vous assurer que le niveau de préparation des administrations est pas du tout au même niveau que les entreprises privées. Au-delà de ça, donc il y a un cadre qui se met en place, et concrètement, on parlait de valeur. Sur les valeurs, aujourd'hui, l'écosystème qui tourne autour de l'intelligence artificielle, c'est un écosystème très collaboratif. C'est pas un système très descendant. Et nous, cette plateforme collaborative, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, on n'en a pas. Et donc, dès lors qu'on voudra utiliser des applications open source qui viennent des États-Unis, on ne pourra plus le faire. Et nous, on voit plein de clients aujourd'hui qui déjà nous disent que c'est plus possible. Or, ça veut dire que très concrètement, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, il y a plein d'applications qui pourraient être très utiles dans l'usage du quotidien et très loin des fantasmes de l'intelligence artificielle, et qu'on ne pourra pas mettre en œuvre parce que il y a un différentiel de régulation.
Oui, mais frère Eric, l'innovation, on encourage systématiquement?
Bien sûr qu'on encourage, mais pour moi, la question, c'est est-ce que l'éthique, c'est forcément quelque chose qui est top-down et qui est dissocié, ces espèces de vestales qui vont dire ce qu'il faut qu'on fasse, etc. Ou est-ce que c'est embête, c'est de l'éthique by design, ce que font de plus en plus d'entreprises, c'est-à-dire qu'en fait, quand elles mettent en place un projet, elles ont une réflexion en interne sur ce que peut être l'impact de ce projet-là sur leurs clients, mais aussi sur l'écosystème, sur l'environnement, etc. Ça, c'est de l'éthique. Et ça, ça peut être fait dans l'entreprise, et ça peut être fait en interne. Nous, on travaille beaucoup. Donc, c'est l'une des activités d'Optique.
C'est ce que vous faites, justement, chez Optique. On va rappeler Optique, cet ordre des prêcheurs pour les technologies, l'information et la communication. 150 membres, c'est vraiment du top niveau, du grand chef d'entreprise de la Silicon Valley, mais pas que, justement. Vous testez entre vous des nouvelles technologies, des nouvelles innovations, et quelque part, vous vous dites, c'est bien ou je mets un veto, c'est un peu ça
On met pas de veto. Non, ce qu'on fait, la plupart du temps, on travaille à huis clos avec les acteurs de ces technologies et on essaie de tourner le modèle dans tous les sens. L'intérêt d'avoir une approche pluridisciplinaire, et de fait, on travaille tous ensemble. Il n'y a pas d'un côté les éthiciens et de l'autre côté les industriels. Le fait d'être assis autour d'une même table, c'est qu'on a un vrai modèle en 3D. On peut le tourner dans tous les sens. On peut voir s'il y a des points aveugles. Et actuellement, dans nos questions éthiques, il y a constamment plein de points aveugles. Et comme ça, en éclairant ces points aveugles, on aide aussi les acteurs, les industriels,
vous
les développeurs. Bien sûr, et s'ils viennent, c'est parce qu'ils sont intéressés. Il y a rien d'obligatoire. En plus, c'est même pas public, ils peuvent même pas faire de la promo sur c'est super, on travaille avec eux. Non, tout ça c'est confidentiel. Donc non, ils ont intérêt à le faire. Et on fait ça d'un côté, ce qu'on fait d'un autre côté aussi, c'est qu'on travaille avec des startups et on les aide à penser leur modèle. Qu'est-ce que ça donne s'ils sont at scale? Qu'est-ce que ça donne s'ils sont gros? Qu'est-ce que ça donne votre business model? Est-ce que vous apercevez que vous allez casser complètement un secteur de l'économie? Est-ce que vous apercevez que vous allez assécher une ressource? Ça vaut le coup de se poser la question. Et ça vaut le coup de se poser la question au tout début, quand on est en train de développer ces modèles. Et ça, on aide de plus en plus de startups à le faire.
Parce qu'après, c'est trop tard. Olivier Derrien, Salesforce.
Vous parliez d'innovation tout à l'heure. Nos clients nous demandent de redéfinir avec eux l'innovation, et en mettant le client au centre de leur réflexion. Ça ne veut pas dire pour autant que ce qu'ils faisaient avant en tant qu'industriel, en particulier en France, est à mettre à la poubelle, mais c'est pour équilibrer cette innovation et intégrer dans sa définition la validation par le client. Et derrière, il y a énormément de questions sur l'automatisation par rapport à la relation client. Je vais vous donner un exemple d'un de nos clients qui s'appelle UFF, qui est une filiale d'Aviva en France, où en fait il y a des tas de choses qui sont automatisées pour les outils pour les commerciaux, mais en fait ça permet aux commerciaux de passer plus de temps avec leurs clients, plus de temps, pas moins de temps, et avoir des conversations humainement plus intelligentes, plus intéressantes. Donc il y a tout un équilibre à trouver entre cette technologie et la relation humaine, comme entre l'éthique, si vous voulez, et l'intelligence artificielle.
Ouais, quelles sont les lignes rouges à tracer? Quels sont les filets à mettre en place, justement? Qu'est-ce que vous en...
Ouais. Beaucoup de choses sont autour de l'intégrité et de la dignité humaine. Ça, je pense qu'il y a un certain nombre de choses. Alors, je sais que c'est régulièrement challengé, régulièrement remis en cause, mais on a parlé d'eugénisme. Effectivement, quel droit pour les populations les plus vulnérables? Je pense vraiment les jeunes enfants, je pense les personnes âgées, je pense les personnes handicapées, toutes les personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité. Voilà. Et je pense que ça, c'est un point clé, c'est d'essayer de voir comment une société prend soin, à travers les technologies qu'elle développe, de ses plus fragiles.
Alors, Nicolas Bouzeau, Mathieu Courtecuisse,
oui,
Nicolas.
Je crois, alors, je ne me permettrai évidemment pas de donner des conseils à l'Église, mais quand même... Alors, je vais le faire. Je pense qu'il est aussi très important, et que l'Église peut jouer un rôle très positif, de montrer ce que l'innovation peut apporter. C'est-à-dire, non pas simplement les limites, les lignes rouges à ne pas franchir, mais ce que les nouvelles technologies, le numérique, la robotique, l'intelligence artificielle, peuvent apporter de positif aux populations vulnérables. Et je vais vous donner un exemple dont vous avez vous-même parlé tout à l'heure, puisqu'on sait que le pape s'intéresse beaucoup à ce sujet, la question des migrants. Eh bien, les migrants, on se rend compte qu'ils utilisent beaucoup les crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies, ça permet de transférer des fonds d'un endroit à l'autre de la planète sans coût. Les frais de transaction sont extrêmement faibles. C'est totalement confidentiel, c'est totalement fiable. Et donc, on voit, même le bitcoin a été très utilisé par les migrants. Absolument. Vous savez que le bitcoin est surtout utilisé dans les pays qui ont de très grosses difficultés. Venezuela, par exemple. Et il est utilisé par des gens qui ont des difficultés à avoir accès à de la monnaie classique. Et donc, ça permet de faire des transferts de fonds à une famille qui est déjà partie dans un autre pays. Et donc, le fait de laisser se développer les crypto-monnaies, donc qui sont basées sur la blockchain, comme vous savez, je pense que c'est quelque chose qui peut être considéré comme extrêmement positif. Et au fond, la question, c'est toujours les usages. D'ailleurs, c'est pas les technologies, parce que la technologie en soi, ouais, elle est neutre. Elle peut être bonne ou mauvaise. Regardez les exemples dont, ouais, j'ai parlé au XXe siècle. Le nucléaire, avec le nucléaire, vous pouvez faire de l'électricité, guérir des cancers, faire des bombes atomiques. C'est à votre entière disposition. Donc la technologie en elle-même, elle est neutre. Ce qui va avoir un impact sur l'amélioration ou pas du genre humain, c'est bien sûr l'usage qu'on en fait. Et je pense que de ce point de vue-là, je le dis sans prosélytisme, malheureusement pour moi, je ne suis pas croyant. C'est une grâce qui ne m'est pas tombée dessus. Mais je pense que l'Église peut jouer un rôle très
important. Frédéric et ensuite Mathieu.
Non, mais l'exemple que vous donnez, par exemple, c'est un exemple de science, de découverte scientifique. C'est pas un exemple de technologie. La technologie nucléaire, c'est la fusion nucléaire dans le réacteur, c'est pas les équations d'Einstein. Et ça, effectivement, les équations, elles sont neutres, et la science, elle est neutre. En revanche, toute technologie, et surtout nos technologies actuelles, sont suffisamment complexes pour emporter avec elles, on va dire, à l'intérieur, en fait, designer, by design, des quantités de présupposés, qui sont des présupposés éthiques, qui sont des présupposés de valeur, et qui sont des présupposés politiques. La façon dont on design un réseau social va conduire à une certaine façon de l'utiliser. Alors après, c'est vrai qu'il y aura toujours des gens qui vont l'utiliser, je sais pas, pour faire du terrorisme, et d'autres pour découvrir l'âme sœur. C'est vrai. Mais on se rend compte quand même qu'il y a aussi des constantes. C'est-à-dire que la course au like, par exemple, ça c'est pour tout le monde. Et le remplacement progressivement de relations fortes, et j'ai rien contre les réseaux sociaux, et je suis sur les réseaux sociaux, c'est très bien. Mais le remplacement de relations fortes par une infinité de relations faibles, ça c'est des choses qui sont communes à toutes les personnes qui vont utiliser ces réseaux. Et je dis pas que c'est négatif, je dis simplement que la neutralité de la technologie, même les géants de la technologie maintenant, ne la professent plus. Donc plus, moi je dirais qu'au fond, je suis désolé de le dire comme ça, mais j'ai l'impression qu'au fond, on n'y croit plus. En revanche, ce qui est sûr, c'est que cette technologie, elle a une forme de versatilité, ça peut être utilisée de plein de façons différentes. Ça, c'est vrai. Mais ça n'empêche quand même que la façon dont on l'a définie, la façon dont on l'a conçue, et on s'en rend compte, par exemple, avec un certain nombre d'algorithmes qui ont en interne des biais cachés complètement, on va dire, inconscients. Des biais que leur créateur n'avait pas imaginé. Je pense par exemple à une chercheuse du MIT qui est afro-américaine et qui a découvert que son téléphone ne se déverrouillait pas parce que son visage était trop noir et qu'il n'était pas considéré comme un visage humain. Bien entendu, c'est pas volontaire de la part du fabricant de téléphone. Ça, c'est typiquement le genre de choses qui entrent dans une technologie sans qu'on fasse attention. Et moi, c'est là-dessus que j'attire l'attention. C'est là-dessus qu'il faut travailler et que de plus en plus de scientifiques travaillent.
Mathieu Courtecuisse.
Oui, alors juste deux petits points. Donc, ce qui est quand même spectaculaire avec ces technologies, c'est qu'elles sont par essence affordable. C'est-à-dire que ça permet quand même à beaucoup de gens de s'y approprier très vite. Alors c'est le cas pour le blockchain, etc., ou les crypto-monnaies, mais la réalité c'est que Facebook, ça a été adopté dans les pays émergents extrêmement rapidement, parce que ces services, ils sont accessibles à toutes ces populations défavorisées. Donc il y a des gains spectaculaires sur tout un nombre de services. Donc il y a des gains de pouvoir d'achat qui sont à la clé, qui sont extrêmement importants. Donc c'est des outils de massification de plein de services qui étaient aujourd'hui inaccessibles à plein de populations. Sur ce que vous venez d'indiquer sur le volet, finalement, rendre explicite un certain nombre de règles qui sont intégrées dans les algorithmes, de toute façon, les biais humains, ils existent aussi, bien évidemment, et que là, au contraire, on va pouvoir entrer dans des démarches finalement positives, où on va pouvoir expliciter toute une série de critères de décision. Donc c'est extrêmement positif, parce qu'il y avait plein de vices cachés dans l'intelligence humaine, et qu'on va pouvoir rendre explicite. On le voit, par exemple, des expérimentations sur les véhicules autonomes. Si vous êtes dans un choix entre devoir écraser une vieille femme ou un jeune enfant, et vous n'avez pas le choix entre les deux, qu'est-ce que vous choisissez? Ben, écoutez, moi, je ne sais pas répondre à titre personnel, mais sur ce que je peux vous dire, c'est que là, il va falloir expliciter ce type de règles que aujourd'hui on ne faisait pas dans la population humaine.
Alors, on se retrouve dans un instant avec les décodeurs de l'écho. Promis, c'est passionnant. À tout de suite sur BFM Business, à la télé, à la radio. Tout le monde voulait prendre la parole juste après.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, quelle éthique mettre, quelle valeur mettre justement dans toutes ces nouvelles technologies que sont l'intelligence artificielle, la blockchain, cet usage immodéré donc des data. On en parle, on continue à en parler ce soir avec les décodeurs de l'écho. Et quelques instants, c'est Mathieu Courtecuisse, président fondateur du cabinet de conseil Scia Partners, très en pointe justement sur toutes les questions d'intelligence artificielle, qui évoquait la question de la voiture autonome. Bah oui, à un moment, il va peut-être falloir trancher dans le système interne de la voiture autonome, si elle est amené à rencontrer eh bien, une vieille dame ou un enfant, et qu'il faut un moment choisir, hein, quelque part, soit d'écraser la vieille dame, soit d'écraser l'enfant. Bon, je ne sais pas si ces questions se posent dans ces termes exactement. Frère Eric, qui conseille le pape sur toutes ces nouvelles technologies. De passage à Paris, justement. Alors, vous tranchez ou pas?
Disons que si on peut trancher à un moment, il va falloir de toute façon définir des règles dans l'algorithme. Donc ça, à un moment ou à un autre, il va falloir trancher. La difficulté qui se pose, c'est qu'effectivement émergent de nouvelles questions. Jusque-là, c'était des réflexes, donc en fait, on n'avait pas l'occasion de se poser les questions. Et en fait, on se rend compte que, comme chaque fois qu'on informatise, entre guillemets, quelque chose, chaque fois qu'on utilise une technologie, ça objective et ça nous oblige à regarder en face nos propres biais, nos propres limites, ça génère de nouvelles questions. Moi, ma question, c'est pas seulement comment est-ce que la machine va se débrouiller par elle-même, avec le risque d'avoir des vices cachés, entre guillemets, ou des erreurs ou des biais qui sont cachés, c'est quel sera le propos de l'humain qui va la programmer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on utilise, alors le cas du trolley dans la voiture, c'est celui qu'on utilise tout le temps, mais c'est la même chose quand on commence à utiliser l'intelligence artificielle dans le monde de la justice, comme c'est fait par exemple aux États-Unis, pour savoir si on va libérer en avance, par anticipation, un détenu ou pas. Tout ça, effectivement, ça va introduire de nouvelles règles, et ces nouvelles règles-là, souvent, en fait, on se rend compte que derrière, c'est beaucoup plus politique qu'on le pense.
Olivier Derrien.
Oui, j'aimerais partager avec vous
pour l'Europe du Sud.
Deux observations dans cette discussion. La première, c'est sur la propriété des données. Je pense qu'il faut qu'on informe tout à fait proactivement chaque utilisateur de cet aspect de la propriété des données. Vous le savez, chez Facebook, en fait, c'est Facebook qui devient propriétaire des données. En ce qui nous concerne, nous, Salesforce, c'est pas du tout ça. La propriété des données reste celle du client du début jusqu'à la fin. C'est vraiment complètement différent comme modèle. On n'a pas de business model sur les les données de nos clients. Et ça, il faut qu'on arrive à expliquer et à informer tous les gens qui utilisent ce genre de service à cette notion bien particulière. Et puis, pour revenir à ce que frère Eric disait tout à l'heure sur les démunis, on est très fiers quand on peut aider les démunis, mais pas uniquement avec la technologie. Je parlais de valeur tout à l'heure et nos clients. On fait souvent des réunions avec nos clients et on fait des manifestations. Quand Marc Benioff a créé la société à 19 ans, il a dit, on va offrir à chacun de nos salariés 7 jours par an, en plus des vacances, pour aller aider les associations dans le pays où on est. En France, l'an dernier, on a passé 16 000 heures, quand même, 16 000 heures à aider les associations en France. Dans la vision de Salesforce en France, il y a de transformer la France et de construire une meilleure France. On est très fiers de ça. Il n'y a pas de la technologie dans les valeurs. Ça doit être accompagné par des tas de mouvements humains aussi.
Alors, les données, justement, et dans l'actu de la semaine, c'est Mark Zuckerberg qui va être entendu par le Congrès américain dans l'affaire Cambridge Analytics. Bon, il devrait dire qu'il a fait une erreur personnelle, qu'il est désolé, justement. Bon, l'affaire de l'utiliser, c'est l'affaire de l'utilisation indue de données de millions d'utilisateurs donc par cette société liée à la campagne de Trump. On arrivait à la fin d'un système, il y a un nouveau modèle plus éthique qui doit être mis en place justement concernant les data. Après l'engouement, c'est l'heure de la défiance. Il y a Nicolas Bouzou à Stéréo.
Non, mais je pense que ce modèle, il va se mettre en place. Il est en train de se mettre en place parce que Facebook, l'entreprise, a bien vu qu'elle avait un énorme problème. Même si, en réalité, ce que l'on voit, c'est que ça a assez peu affecté l'entreprise Facebook. Il y a notamment un hashtag qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, le hashtag Delete Facebook. Oui, mais en fait, il n'a absolument rien donné. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas eu de personnes, le nombre de gens qui ont désinstallé l'application Facebook.
Bah, ils ont quand même perdu 20% de leur valeur, non?
Extrêmement. Oui, mais ça, ça veut rien dire. Ça, c'est marché financier. On l'a 20%. Au plus ou au moins, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce que l'on voit, c'est que quand une entreprise aujourd'hui a plus de 2 milliards d'utilisateurs, le réseau est tellement puissant au fond qu'il est extrêmement inerte. Donc je trouve que le sujet des données, pardon, mais n'est pas un sujet extrêmement compliqué. Je pense qu'il va y avoir des sujets termes d'éthique.
Il faut quoi? Il faut ouvrir ou non l'accès aux données?
Ah oui, non, mais attendez, mais les données, il faut qu'il y ait une traçabilité complète et de toute façon, il faut que l'on puisse, il faut que les contrats que l'on noue avec les moteurs de recherche et les réseaux sociaux ne soient pas léonins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont léonins dans la mesure où on dit j'accepte, mais en réalité, personne ne le lit parce que c'est trop long. Donc là, il y a bien évidemment des choses à faire. Mais, je veux dire, ça changera pas le fond du problème. C'est-à-dire que, de toute façon, on aura des conditions générales d'utilisation qui seront beaucoup plus simples. On dira quand même j'accepte et on utilisera quand même ces
Nicolas,
sites-là.
Est-ce qu'il faut mettre quand même fin à cette époque de dérive? Est-ce qu'il faut
mais bien sûr.
Un nouveau modèle? Est-ce que, par exemple, le RGPD dont parlait tout à l'heure Mathieu Courtecuisse, donc finalement, bah voilà, quelque part, on fait un nouvel usage de la data.
Non, mais
plus responsable.
On va se parler franchement. Le RGPD, c'est de la vengeance sadique par rapport aux GAFA, parce qu'on n'a jamais été, on n'a jamais réussi à les faire en Europe. Donc, en réalité, on règle. C'est comme toutes les histoires de taxes qu'il faut sans doute mettre en œuvre, d'ailleurs. Mais si vous voulez, l'Europe se venge parce qu'elle n'a pas les GAFA. Du coup, on met en place une réglementation. Alors là, pour le coup, qui va faire en sorte qu'on les ait jamais. Donc, c'est parfait.
D'accord,
donc,
pas d'accord.
Un peu critique quand même par rapport à cette réglementation.
D'accord, parce qu'on oublie beaucoup l'innovation là-dedans. On parlait d'innovation tout à l'heure. C'est beaucoup plus important que ces histoires entre continents.
Mathieu Courtecuisse.
Moi, je pense que surtout, on risque de tirer une balle dans le pied parce que, effectivement, ça risque de ralentir les processus d'innovation. Et en plus, pour collecter les droits au consentement, et il y a des chances que les gens aillent sur des plateformes
américaines
parce que ça sera plus simple, parce que c'est là où ils vont le plus souvent. Et donc des médias, par exemple, si on va sur le site de BFM Business, si on vous demande votre consentement, etc., vous allez trouver ça pénible parce que vous l'avez déjà rempli plusieurs fois sur plein de formulaires, et donc vous allez vous dire, bah, je préférerais accéder au site de BFM Business via la plateforme Facebook parce que j'ai déjà consenti. Et c'est ça la réalité. Donc ça va accroître l'influence de ces grandes plateformes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc ça ralentit les processus d'innovation au travers de l'usage des données. Parce qu'encore une fois, c'est plein de haies qui sont mises en circuit. Moi, je pense que le régulateur a fait une erreur d'analyse et on aurait dû travailler sur la démonétisation des agrégats de données. Alors c'est peut-être un peu compliqué, mais là aujourd'hui, il y a des débats sur le patrimoine des données. Est-ce que ça a une valeur? Est-ce que les gens peuvent revendre leurs données finalement? Moi, je pense que le régulateur devrait travailler sur le fait que ces données-là soient disponibles en open source, en agrégat de données, et comme ça, on démonétiserait la valeur de ces entités.
Qu'est-ce qu'on fait de ces milliards de données existantes, frère Eric, justement, la démocratie, est-ce qu'elle peut être en danger, justement, est-ce que l'opinion commence à se méfier de tous ces bons usages des algorithmes?
Je pense que l'opinion commence à se méfier, même dans des pays où jusque-là, c'était pas un problème. Ça prouve quand même que les choses sont en train de bouger. Après, si la data, c'est le pétrole du 21e XXIe siècle, est-ce que ça veut dire que le pétrole brut doit couler à flot gratuitement et que seul le pétrole raffiné est vendu? Ou est-ce que ça veut dire que cette donnée brute, elle a aussi une valeur et que quelque part, si elle a une valeur, que ça soit individuellement, pas forcément, mais au moins au niveau du pays ou de l'Union européenne, si on est exportateur, il faut que quelque part on y trouve quelque chose. Ou alors, il faut que quelque part on puisse récupérer du raffiné. C'est-à-dire que moi, ça me gêne pas que la donnée européenne parte pour des entreprises, notamment les grandes entreprises américaines, à partir du moment aussi où des start-up européennes peuvent en bénéficier et bénéficier de ce qui a été raffiné par ces Américains.
Il va y avoir deux comportements différents, une captation, allez, je vais dire entre guillemets, sauvage, des gens américains et chinois, versus non. La réglementation européenne.
Il y a trois approches.
Alors, dis-y, frère Eric et vous, Mathieu Courtecuisse.
Allez-y.
Alors,
non, mais Mathieu Courtecuisse, l'approche américaine, c'est une approche contractuelle. L'approche européenne, c'est une approche très top-down. Et l'approche chinoise, c'est le Far West, on va dire, ou le Far East. Puisque, en gros, c'est la primauté des intérêts de l'État et de développer une industrie, l'intelligence artificielle. Donc, le modèle américain, c'est un modèle contractuel qu'on connaît. Comme le disait Nicolas, c'est vrai qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que les CGV, bon, je ne sais pas si vous les avez déjà lus. Enfin,
jamais.
Il faut être quand même assez courageux. Donc, il y a un problème d'accès au contenu de ces CGV. Donc il y a un travail de simplification et de rendre plus facile d'accès et d'avoir des vrais opt-in aussi pour pouvoir faire des choix dans les données qu'on fait, parce qu'aujourd'hui vous signez un pack complet, donc c'est là où il faut travailler. Mais l'approche contractuelle, de mon point de vue, me semble être la plus logique à partir du moment où on aide les consommateurs et les fournisseurs de données primaires à se positionner.
Olivier Derrien, Salesforce.
Alors là, on parle de sujets éminemment intéressants, il faut continuer à en parler. En même temps, il faut agir. En même temps, Michelin, Peugeot, Airbus mettent dans leur système de l'intelligence artificielle pour mieux se connecter à leurs propres clients et pour gagner des parts de marché. Nous, on est là pour faire gagner la France. Alors, on peut être américain et vouloir faire gagner la France. On peut être chinois, je suppose, et vouloir faire gagner la France si on est représentant d'une société chinoise à Paris. Donc, je voudrais qu'on évite aussi de généraliser un peu trop vite les Américains, les Chinois, les Européens. Je pense que la différence peut se faire par le comportement, les valeurs, l'éthique.
Toujours. Et l'éthique, comment est-ce qu'on l'explique? Comment est-ce qu'on forme les enfants à l'intelligence artificielle? Les étudiants également qui vont se former à ça. On avait l'autre jour le patron de Microsoft qui était dans ce studio, qui ouvrait donc il y a à peu près 2-3 semaines, donc c'était au mois de mars, une école d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on doit expliquer dans ces écoles? Jeunes ou les moins jeunes, frère Eric.
D'abord, il faut apprendre que l'éthique, ça se bâtit tout petit, ça se conçoit quand on est tout petit, y compris pour une entreprise. C'est-à-dire que c'est au tout début que les choses, le business model doit s'orienter d'une façon.
On doit dire quoi dans cette formation à l'éthique?
Je pense qu'on doit aider les entrepreneurs à prendre conscience de l'impact réel de leur entreprise et de leur projet s'ils ont du succès. Beaucoup trop souvent, ils se disent, oui, mais nous, on est petits, on n'a pas un énorme impact, donc oui, bon, c'est un peu sale, mais c'est pas grave. Énorme erreur. Parce que il faut leur souhaiter qu'ils aient du succès. Il faut leur souhaiter qu'ils deviennent gros. Il faut leur souhaiter qu'ils aient une énorme part de marché. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et je pense qu'il faut travailler avec les entrepreneurs, il faut travailler avec les ingénieurs en amont ou les élèves ingénieurs de façon à aider chacun à prendre conscience que, ok, quelque part, il faut se demander à l'avance, il faut essayer de planifier ce que sera le développement de notre technologie et de notre business model, et surtout essayer d'être, c'est désolé de dire ça en tant que prêtre, mais d'être un peu l'avocat du diable. C'est-à-dire se dire, ok, je développe, je vais pas limiter mon développement, je vais pas limiter ma boîte, mais j'essaie d'imaginer, what if, qu'est-ce qui se passe si ça tourne mal? Et essayer de voir, et peut-être un peu trouver des compléments, trouver des adaptations, de façon à éviter que ça tourne mal.
Mais si je peux me permettre, les valeurs, c'est là où elles sont importantes. C'est quand ça va mal. On s'appuie sur ces valeurs et on prend des décisions radicales. Comme on peut séparer ou perdre du business en respect de nos valeurs.
Mais ça veut dire que les valeurs, il faut les avoir décidées
dès le départ,
à l'avance. Parce que c'est pas quand on est dans la crise qu'on dit finalement on le fait.
Dès le début, frère Eric.
Le monde de la tech, est-ce qu'il se prend pour Dieu, Nicolas Bouzou?
Non, il se prend pas pour Dieu, mais il défie Dieu. En tout cas, la Silicon Valley est en train de défier Dieu d'une certaine façon, et on le voit bien dans le domaine dont je parlais tout à l'heure, est celui de la santé. Évidemment, ce qu'on appelle le transhumanisme. L'idée derrière ça, c'est de passer d'une santé réparatrice, à une santé prédictive, augmentatrice et qui permettent de vivre le plus longtemps possible, voire de ne jamais mourir. Et on peut même aller jusqu'au post-humanisme, c'est-à-dire l'hybridation. Alors là, le post-humanisme, c'est plus le transhumanisme, hein, mais c'est l'hybridation de l'homme et de la machine qui permet d'aller jusqu'à l'immortalité. Et vous avez bien évidemment un très grand responsable de Google, Ray Kurzweil, directeur scientifique de Google, qui est un transhumaniste convaincu et qui fait l'apologie de l'immortalité et qui a même écrit que lui-même comptait y parvenir, si vous voulez. Donc là, je crois qu'il y a quand même un sujet qui est un sujet de réflexion. Et l'idée transhumaniste, au fond, eux disent from chance to choice, c'est-à-dire passer du hasard de la vie. Fabrice l'a dit, vous êtes né brun, vous n'avez pas tardé à être myope, moi aussi. Finalement, vous auriez pu, parce qu'il faut voir en face de moi, voilà. Et vous auriez pu choisir autre chose. Ouais. Et ça, c'est quand même à l'agenda d'un certain nombre d'entreprises.
Mathieu Courtecuisse.
Oui, alors moi, je vais peut-être revenir à un peu plus court terme. Moi, je pense qu'il y a des risques de formatage aujourd'hui de la société. Et par exemple, aujourd'hui...
Mais est-ce que le monde de la tech se prend pour Dieu ? C'est la question qu'on se pose ce soir. Répondez-y.
Moi, je pense non. Ouais. Voilà, si j'ai une réponse à donner là-dessus. Je pense qu'il y a des envies d'améliorer très significativement l'espérance de vie, de réduire, par exemple, la mortalité sur les routes de 90%. Ouais, c'est ça l'arrêté de la voiture autonome, c'est 90% de morts en moins.
La chaussée autonome.
Exactement. Donc ça, c'est des applications concrètes qui vont améliorer le cadre de vie.
Olivier Derrien.
Non, je ne prends pas pour Dieu. On va créer des emplois, 100 000 emplois dans les 5 prochaines années en France autour de la technologie Salesforce, 1 million d'emplois dans le numérique. Là, ça, c'est bien. Création d'emplois dans ce pays.
Frère Eric.
Moi, je pense que innover, c'est dans la nature humaine. Donc on ne se prend pas pour Dieu quand on innove. Le problème, c'est que innover, ça demande d'avoir, on va dire, plus on a de pouvoir, plus on a de responsabilité. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête.
Dernière question, vous avez organisé il y a quelques jours un premier hackathon au Vatican, avec des sponsors tels que Cisco.
Il y avait
Salesforce, bien sûr.
Salesforce, c'était aussi, très présent.
Google.
Très présent.
Je ne sais pas si sa sainteté était là ou à vos côtés. Qu'est-ce que ça a donné, ce hackathon?
Ben, ça nous a permis d'identifier un certain nombre de réponses technologiques à des questions qui sont autour de aider les migrants, soutenir les plus pauvres et soutenir le dialogue interreligieux pour éviter qu'il y ait du conflit. Donc, c'est des sujets extrêmement politiques, pratiques, concrets, sur lesquels on a, je pense, fait émerger des solutions grâce à nos partenaires et grâce aux étudiants qui étaient là.
Eh ben, c'est très bien. Merci. Bon retour donc au Vatican. Frère Eric Salobir à la tête d'Optique Techno, donc l'ordre des prêcheurs pour les technologies, l'information et la communication, réseau mondial de PDG, de chercheurs pour sensibiliser, eh bien, les grands de ce monde aux questions d'éthique, liées notamment à l'intelligence artificielle. Olivier Derrien, à la tête de Merci. Salesforce France et Europe du Sud, et qui vient régulièrement sur BFM Business avec Frédéric Simotel dans l'ère du client. Nicolas Bouzou, on le rappelle, le travail et l'avenir de l'homme, il est à la tête de son cabinet d'études. Asterès, et puis Mathieu Courtecuisse, président fondateur du cabinet de conseil Sia Partners, qui explore depuis quelques années toutes ces questions d'intelligence artificielle. C'est fini avec les décodeurs de l'écho. On revient évidemment très très vite sur BFM Business.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.